Oui, je vous en prie.
Merci beaucoup de votre intervention. C'est très brillant, celle que vous avez effectuée sur les sur la conclusion, sur la Sykes-Picot 1. Est-ce que vous n'avez pas une estimation pour Sykes-Picot 2 pour la fédéralisation de la région?
S'il s'agissait de fédéralisation de la région, ce serait trop beau pour être vrai. Israël cherche à disséminer, plutôt à démembrer les États existants en une multitude d'États, de mini-États en guerre permanente entre eux. Israël n'a aucun intérêt à laisser la paix prendre place entre sunnites et chiites. Regardez, depuis le triomphe de la révolution iranienne en 79, ils ont tellement travaillé sur l'antagonisme sunnite-chiite et ils ont tout fait pour essayer de mettre la pagaille entre les deux pays. Bon, ils n'ont pas réussi. Il y a eu des résistances et on peut se rabattre sur les efforts gigantesques qui ont été déployés pour empêcher, de la part du camp de je veux dire, de l'axe de la résistance, pour faire barrage à ces tentatives d'incitation à la guerre entre eux. Et puis, ultimement, les Saoudiens ont dû consentir à faire la paix avec l'Iran et à accepter de se réconcilier et de conclure des accords sous égide chinoise avec l'Iran. Alors, je ne pense pas que, donc, ça, ce qui a été fait là-bas, moi j'ai toujours dit, dans le prolongement de ce que j'ai raconté tout à l'heure, que. Pourquoi au Liban? Pourquoi on cherche à nous infliger ces 3 millions de sunnites non libanais, en faire des Libanais? Eh bien parce que là-bas, ça a l'air, sur le front du Golfe arabo-persique, ça a l'air de se tasser. Mais les diables qui cherchaient à mettre le feu à la poudrière, eh ben, n'est pas prêt de renoncer à son projet. Ceux qui n'ont pas réussi à allumer dans le Golfe, ils cherchent à l'allumer une nouvelle fois à partir du Liban. Et pourquoi je dis une nouvelle fois? Parce qu'ils avaient essayé en 1975, toute cette guerre qui a été. Évidemment, nous sommes toujours réceptifs. Nous adorons la guerre, les Libanais. Mais on a beaucoup d'éléments, des aventuriers et des vendus et des. Il y a toutes sortes d'éléments chez nous. Mais derrière tout ça, et on le voit, il y a une littérature géante qui existe. Même Moshe Sharet, déjà, qui a été le deuxième premier ministre israélien après Ben-Gourion, il raconte que Ben-Gourion savait. Depuis cette époque-là, que par la guerre, ils ne réussiront jamais à garantir la sécurité d'Israël à long terme, et que la seule possibilité, le seul facteur qui puisse lui donner cette garantie, c'est de parvenir à ce démembrement, à cette pulvérisation, pas démembrement, à cette pulvérisation de la région sur la base des antagonismes religieux, confessionnels, ethniques, raciaux, etc. Oui.
Il y a une question fondamentale pour toute la région, c'est la question kurde.
Kurde.
Oui.
Oui.
Dans mes discussions avec Larouche il y a des années, c'était cette question qu'on soulevait ensemble. Alors, pourquoi? Parce que, évidemment, les États-Unis ont soutenu les frères musulmans, et ils ont toujours soutenu, comme une branche dont ils seraient prêts à se séparer à un certain moment, mais qui soutiennent tant qu'ils peuvent jouer un rôle dans la déstabilisation et le dévoiement de toute la région. Erdogan est un frère musulman, donc il y avait un intérêt commun jusqu'à maintenant. Maintenant, il y a la question kurde. Pour les Turcs, et pour l'armée turque en particulier, les Kurdes représentent un risque, avec le PKK, de les faire passer eux aussi à la casserole. Et ils le ressentent. Alors qu'Israël et les États-Unis soutiennent absolument les Kurdes. Là, il y a une dissension qui se dessine entre les deux forces qui ont coopéré à ce qui s'est passé en Syrie. Comment vois-tu l'avenir par rapport à ça?
Eh bien, écoutez, là, c'est très simple. On voit bien, les expériences sont nombreuses qui nous montrent que quand il s'agit de ses intérêts égoïstes, Israël ne lâche jamais. Elle ne renonce pas à ses intérêts. Et donc, s'il faut casser la Turquie, Israël le cassera. Il fera tout pour le casser. Parce que là, ils ont une pièce maîtresse dans leur stratégie. L'imaginer, avec la question kurde, ce qu'ils réussiront à faire, ils réussiront à réduire d'un seul coup quatre États d'importance centrale dans la région. La Turquie, et la Turquie est menacée d'ailleurs. La Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Pardon?
L'Arménie,
oui. Mais finalement, ce sont des pays musulmans. C'est ça qui est. L'Arménie ne représente pas de menace. C'est très loin l'Arménie et ce n'est pas une menace. Mais pour Israël. Mais les autres, c'est une menace. C'est l'islam. C'est l'islam sous ses différentes appellations. Et donc, évidemment, Israël ne ménage aucun allié, aucun ami. Il n'y a pas d'amitié perpétuelle pour Israël. Tu es son ami aussi longtemps que tu sers ses intérêts. Mais le jour où ses intérêts s'opposent aux tiens, elle me marche dessus.
Non, je ne pensais pas à Israël, je pensais à la Turquie, c'est la Turquie qui m'intéresse.
Oui.
Parce que les Turcs ont, par la tradition de Mustafa Kemal, de Kemal Atatürk, une tradition nationale.
Oui.
Et l'armée est liée à cette tradition nationale.
Oui.
Il y a des partis, nos amis en Turquie, c'est le parti des patriotes. Hein. C'est le parti qui est pour le souvenir de Mustafa Kemal. Donc ces gens-là disent une chose. Il y a un moment où Fethullah Gülen et son opération a déstabilisé Erdogan. Et Erdogan a été obligé de mettre en prison des gens qui étaient de cette tendance-là et de libérer de prison des gens qui étaient les nationalistes kémalistes qu'il avait mis auparavant en prison. Et l'armée a approuvé cela. Donc Erdogan, c'est d'un côté évidemment les frères musulmans, mais de l'autre côté, il est obligé de composer avec la tendance nationale de la Turquie. Et il faut bien voir que Erdogan était à Kazan le 22-24 octobre avec les BRICS et qu'il est aux portes d'adhérer aux BRICS tout en n'y adhérant pas, typique d'Erdogan. Donc, il y a en Turquie ce sentiment national qui créera, je pense, un lieu de conflit certain dans la période qui vient. D'autre part, si la question ukrainienne peut être réglée, la Russie certainement réinterviendra dans la région, d'une façon ou de l'autre. Et je pense qu'il faudrait voir de plus près, je ne sais pas ce qu'on en sait, la réunion qu'il y a eu à Doha du groupe d'Astana entre la Turquie, l'Iran et la Russie, et qu'est-ce qui a été dit? Ça, c'est une interrogation pour moi, qui tend à expliquer pourquoi la Turquie et la Russie sont à la... L'Iran et la Russie,
et la Russie
ne sont pas intervenus dans cette affaire. Je ne sais pas ce que tu penses.
Bon, écoute,
Juste une question complémentaire qui va un petit peu dans le même sens. Compte tenu que s'il y avait un clash quelconque entre Israël et la Turquie, bon, la Turquie est membre de l'OTAN. Donc, est-ce que ça impliquerait que les autres membres de l'OTAN devraient venir, normalement, comme c'est prévu, la Turquie?
Écoute, moi je pense que là, il s'agit, pour Israël, il ne s'agit pas d'une guerre ouverte à mener contre la Turquie dans cette affaire-là. C'est un soutien qu'il entend apporter, irrévocable, un soutien irrévocable aux Kurdes. Et c'est au Kurde de faire l'affaire. Donc il n'a pas, lui, à tremper dans un conflit direct avec le. Mais c'est ça, le. Et d'ailleurs, le Turc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Lui, il s'abrite derrière les intérêts des Syriens. Parce que Ahmad el-Shara, eh ben, il est censé préserver l'unité de la Syrie en tant que pays, quoi. Et donc, il va s'abriter derrière l'obligation d'aider ces ouailles syriennes à préserver l'unité du pays et chercher par là à casser les Kurdes. Donc, c'est une guerre par proxy interposé, si vous voulez. C'est ça. Donc, c'est ce que je vois se profiler. Alors, donc c'était ça la question. Je crois que j'ai répondu aux deux questions. Mais quant à ce qui a été dit à Doha, on raconte beaucoup de choses. Enfin, il a été raconté, mais moi je ne donne aucun crédit à ce qu'on raconte. Parce que, après tout, moi je pense que là. Je pense que la chose la plus évidente, c'est que les Russes et les Iraniens ont fini par comprendre qu'il n'y a plus d'armée syrienne. L'armée syrienne n'est pas prête à se battre, et donc ils ont compris que la bataille était perdue. C'est aussi simple que ça, me semble-t-il. Parce que eux, ils avaient, bon, ça, je crois que ça, c'est. Parce qu'on a dit il a été conclu un deal entre Poutine et les Américains sur la. Je ne crois pas. Hein?
Pas avec les Américains.
Non, pas avec les Américains. Moi, je pense que c'est. Ils avaient essayé de faire pression. Aussi bien les Iraniens, ça commence à sortir maintenant. Ils n'en parlaient pas ouvertement pour ne pas gêner Bachar el-Assad. Mais Bachar el-Assad, et d'ailleurs les Russes, pareil, ils ont cherché à encourager pendant 2 ans. Ils ont tout fait pour encourager Bachar el-Assad à faire un pas en avant, à accepter une petite concession avec Erdogan pour débloquer la situation. Non, rien. Depuis 2021, ils ont achevé le processus de Astana. Et donc, en lançant ce processus de réduction de la tension et donc la préparation de l'ambiance à l'élaboration d'un plan de réforme. Mais il n'a rien fait. Et donc, eux, ils comprenaient, ils ont compris, les Russes et les Iraniens savaient que, d'ailleurs, ils n'ont pas mis tous leurs œufs dans le seul panier de Bachar el-Assad. Les Iraniens ont toujours œuvré en vue d'ouvrir, enfin de tisser d'autres relations avec d'autres parties en Syrie. Et d'ailleurs, ils sont en train de travailler dessus maintenant pour essayer de préparer l'alternative, parce que bon, ils savent que maintenant ce triomphe de Shara est provisoire. Il est tout à fait provisoire, parce que bon, il y a tellement de contradictions sur la scène syrienne que ce n'est certainement pas la fin de l'histoire. Donc, à mon avis, ils ont tiré la conclusion, ils ont compris que c'était que les dés sont jetés, que rien ne pouvait plus arrêter cette histoire. Et ils ont vu que finalement, Israël avait, et c'est ça, à mon avis, qui a représenté qui a balisé le terrain, n'est-ce pas, pour préparer les esprits à l'acceptation de cette nouvelle donne. Israël avait montré, et tout le monde sait désormais, que c'était, en surface, la façade, c'était israélien, mais derrière Israël, il y avait tout le savoir, toute la technologie, tout l'armement,
et tous les dollars.
Les dollars américains et atlantiques qui étaient déversés, qui étaient mis au service de cette bataille que menait ce génocide. Et regarde, ils ont rendu Israël immune. On n'a même pas pu la condamner au Conseil de sécurité. Maintenant, ils sont en train d'élaborer des lois pour sanctionner les juges du tribunal international qui a lancé un mandat d'arrestation de Netanyahu. Netin, parce que c'est saleté en arabe. Netin. ils ont compris. Les Russes et les Iraniens ont compris toute la détermination des États-Unis, parce que ça, c'est un jeu qui a été accompli sous le parapluie américain, dans la complicité de la Turquie avec Israël. Et chacun a joué son tour, n'est-ce pas ? Voilà, chacun a tiré sa gamelle, n'est-ce pas, de ce jeu. Bon, les autres ont compris, et ils ont vu que l'armée syrienne n'était pas prête à se battre, alors ils se sont dit, c'est une guerre perdue, pourquoi on essuyait les contre-coups ?
Oui, merci Bassam. J'ai un très bon souvenir de toi.
Je garde toujours un souvenir de toi à la place Victor Hugo, dans les années 80, quand tu t'es accroché à un panneau de signalisation, tu étais monté sur la poubelle, je crois, pour parler aux Libanais de Paris.
Ah oui.
Mais tu avais une voix qui portait. Et j'ai toujours ce souvenir.
Ah, tu étais là ?
Oui, j'étais là, oui.
Victor Hugo, oui.
Je me rappelle très bien.
Bon. J'ai toujours la séquence de la télévision française.
D'accord. C'était un peu Jean Jaurès au Pré Saint-Gervais, avec son drapeau. En tout cas, la question que je voulais poser, je suis tout à fait d'accord avec cette sorte d'implosion qui a eu lieu en Syrie, notamment suite aux ces sanctions terribles, les sanctions César. En fait, c'était quasiment un miracle que la Syrie a résisté aussi longtemps, et qu'une fois qu'il y avait eu le vide, que évidemment les uns et les autres, avec tous les plans qu'ils avaient prévus d'avance, ont tiré leur carte du jeu pour faire ce qu'ils ont fait.
Excuse-moi, et c'est une tête de mule, Bachar el-Assad. Il a cru en les promesses lénifiante des Émirats d'Arabes Unis, etc., qui lui promettait la Lune, on va te réintégrer à la Ligue arabe.
Non, mais même MBS avait demandé à Bachar de se revoir avec Erdogan et de trouver un arrangement diplomatique.
Ouais.
Non, rien. Il n'a pas bougé. Parce que je pense, on peut discuter de ça, son idéologie est très clanique. Donc, même l'Iran, ou faire, disons,
Donc, même s'il avait peut-être des intentions qui n'étaient pas mauvaises, il s'est enfermé dans un moule idéologique qui l'empêchait
Oui,
de penser out of the box. Ma question, c'est plutôt sur la présence des Ouïghours, ce qui tend à confirmer l'anticipation du pire, parce qu'on parle de plusieurs milliers de combattants Ouïghours qui ont participé dans la bataille, notamment à Alep. Et on voit devenir la Syrie une espèce de terrain d'entraînement pour les conflits à venir. Parce que l'Ouïghour, on sait que ce n'est pas gratuit. C'est qu'il y a des arrière-pensées dans les prochaines guerres de se servir des Ouïghours dans les conflits en Asie centrale et contre la Chine. Alors, les nombres, ça varie. Il y a des gens qui parlent de 3 000, il y en a qui parlent de 18 000,
Oui,
même de 30 000 Ouïghours. Est-ce que tu as des éléments plus précis sur cette présence des Ouïghours?
écoute, sur les Ouïghours en particulier, je n'ai pas les chiffres précis, mais je sais qu'ils ont été très nombreux. C'est la rumeur qui se propage. Et je sais que, par ailleurs, il y a eu au total 180 000 combattants qui ont été importés de l'extérieur pour venir prendre part à cette guerre en Syrie, à cette révolution, la révolution des Syriens contre le régime sanguinaire et antidémocratique de Bachar el-Assad. Je ne dis pas que c'est une référence en démocratie, quand même.
Venu d'où alors?
Ah,
180 000.
mais ils sont venus de partout. De partout. Même d'Europe, même d'Angleterre, de France, d'ici, de là, enfin, d'Afrique du Nord. Il y a eu de partout. Si tu veux, je peux te fournir un bilan. Hein?
C'est ce que Bernard-Henri Lévy appelle les brigades internationales
Voilà,
et
ce
les
sont les
brigades
brigades
d'Espagne.
internationales.
Bonsoir. Donc, moi, ma question, c'est par rapport au point sur lequel vous parlez du projet d'Israël de démembrer les pays autour. Moi, je pense que à la chute de Damas et du régime syrien, les dés sont jetés. Et c'est le 8 décembre, pour moi, c'est la date du début de la fin d'Israël. Tout simplement parce que Bachar el-Assad était le meilleur ennemi d'Israël. C'est-à-dire, c'était le clou dans sa chambre à air, de son vélo, et elle a décidé de le retirer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle va se retrouver avec plus d'ennemis, déjà par rapport à cette guerre qu'elle a menée. Donc, il y a plus de colère, plus de rage chez la population autour et chez la population musulmane de tous les pays arabo et musulmans. Aujourd'hui, si Israël décide de démembrer les pays, c'est-à-dire par exemple, elle va créer trois États en Syrie, elle va créer trois États ennemis. Parce que même si la Syrie disparaisse, les Syriens vont rester quand même. La population est là. Et la population déteste cette colonie qui s'appelle Israël. Moi, ma question, c'est par rapport à l'Europe. Les Européens aujourd'hui, pourquoi nous continuons à être les pages de la colo des colonies unies d'Amérique? Pourquoi?
Bon, d'abord je suis, je salue votre extrapolation concernant Israël et concernant l'avenir d'Israël. Même si, bon, je vais aller dans votre sens en fait, parce que moi j'ai une théorie qui va dans le même sens. Et c'est pourquoi j'ai clôturé mon propos en disant que nous n'avons de choix que de continuer à nous battre. Parce que moi, je ne perds pas d'espoir et je sais que j'ai de bonnes raisons, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, de continuer à me battre parce que je vois Israël en train de fondre de l'intérieur. Et d'ailleurs, là, je vais dans le sens, j'ai été fort heureux de découvrir qu'il y a des Israéliens, des sommités de la recherche en Israël qui avec qui je suis d'accord. Comme par exemple Ilan Pappé, qui est un grand historien, je ne sais pas si vous le connaissez, et qui considère qu'on on assiste aujourd'hui au début du démembrement du projet sioniste. En fait, moi, je l'ai vu, j'ai écrit une étude, et je l'ai publiée fin 2022, où j'ai mis en parallèle, la question que je m'étais posée, c'était dans le cadre d'une conférence qui a été réunie à Beyrouth sur les caractéristiques du système international, du régime international en gestation. Parce que l'hypothèse de travail était que le monde est en train d'évoluer vers un nouvel ordre mondial. Il est en gestation. Alors, dans cette perspective, j'ai posé la question de savoir, parce que le Sayyid Hassan Nasrallah appelait toujours Israël l'entité provisoire, parce qu'il considérait que celle-ci n'avait pas d'avenir et elle était condamnée. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir si c'est vraiment, il s'agissait là d'un simple cliché ou d'un cliché pour enflammer l'imagination des militants, ou si c'était une véritable hypothèse. Et en fait, en mettant en parallèle les deux variables de l'évolution des données de l'émigration inverse, c'est-à-dire l'immigration d'Israël à l'extérieur plutôt que l'immigration de l'extérieur à Israël, avec la montée en puissance des mouvements de résistance qui commencent à créer, à déstabiliser les territoires de la Palestine historique. Et j'ai découvert qu'à mesure que cette résistance devenait menaçante et capable de déstabiliser, de créer l'insécurité dans ces territoires occupés et enfin dans les limites de la Palestine historique, j'ai vu que la montée des mouvements de résistance allait de pair avec une véritable hémorragie de la population israélienne. Et j'ai vu que jusqu'à la fin 2022, 1 600 000 Israéliens avaient quitté Israël pour aller s'installer à l'étranger. Et il y avait parmi eux 140 000 cadres supérieurs. C'est la crème de la crème d'Israël qui font toute la richesse, toute l'économie, le progrès d'Israël. Et ces gens-là n'avaient aucune intention de rentrer dans le pays. On a vu maintenant également, au lendemain du déluge de l'Aqsa, pas moins de 700 000 Israéliens ont quitté et ils sont allés s'installer ailleurs, emportant, comme ont dit certains commentateurs, ils ont emporté avec eux leur fortune, leur diplôme et leur famille, avec aucune intention de retour en arrière. Donc ce que je pense personnellement, c'est ça, parce que les Israéliens, les Juifs, en Israël, sont en train de voir qu'ils n'ont pas de lendemain, qu'ils n'ont pas d'avenir dans ce pays. Israël a été fondé sur la promesse d'en faire la terre du lait et du miel pour eux. C'était la terre promise, etc. Alors ils voient de plus en plus que là, on risque sa vie à chaque bout de route. Et je suis d'accord, moi. Mais ceci ne va pas dissuader les fascistes qui gouvernent Israël, les Smotrich et les Ben Gvir, ceux qui appellent au génocide, comme ça, ils en font un discours. Et ce sont ces mêmes personnes que les autorités françaises autorisent à venir prendre part à des manifestations pour recueillir des fonds pour aider à ce projet. Ça ne va pas dissuader les Israéliens. Ce sont des brutes, c'est des fachos, n'est-ce pas ? Alors, oui, évidemment, je ne peux pas, on ne peut pas exclure qu'Israël soit sur la pente glissante qui va le mener à sa fin pendant que ces lunatiques se livrent à de telles pratiques en croyant qu'ils vont pouvoir renverser le cours de l'histoire.
Oui, merci pour toute votre présentation. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ma première question, en fait, on vient d'y répondre à travers l'échange que vous avez eu. Je ne comprenais pas, autant je comprenais bien dans votre exposé comment les Turcs et les Américains avaient intérêt à ce qui s'était passé avec le renversement de Bachar el-Assad, autant je ne comprenais vraiment pas en quoi c'était dans l'intérêt des Israéliens de se retrouver avec un État islamique surarmé et suragressif à ses frontières, là où il avait plutôt un État qui était en décomposition. Ben, la preuve a été faite, d'ailleurs. Mais je pense que l'échange qu'on vient d'avoir répond en partie à cette question. Je crois effectivement que ce n'était pas du tout l'intérêt d'Israël que ça se passe comme ça. Et je ne pense pas qu'ils en tireront beaucoup d'avantages, voire éventuellement plutôt d'avoir un ennemi très, très, très difficile à contrôler à sa frontière. J'ai une deuxième question, mais vraiment là, très pointue, très, très ponctuelle. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des bombardements de l'aviation française sur les positions de Daesh en Syrie. J'ai eu cette information, pas du tout ni à la radio ni à la télé, je l'ai appris un petit peu par les réseaux sociaux. Ça n'a pas été commenté. Je ne comprends pas. Est-ce que c'est vrai ? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on en était allé faire là-bas et comment ça a pu se produire, si c'est le cas, et pourquoi on l'aurait fait ?
Merci de ces questions. D'abord, pour la deuxième question, c'est la première fois que j'en entends parler, enfin, l'histoire des bombardements par l'armée française. Ils l'ont fait.
C'est que réseau social. Contre la Daesh, ils disent.
Contre Daesh dans la coalition.
Quand ça ? Quand ?
Il y a 2 ou 3 jours.
Ah oui, mais écoutez, là, j'ai dû rater certaines informations. Mais vous savez, ça ne m'étonne pas. Finalement, Macron est allé le lendemain, enfin le surlendemain, 17 octobre, se recueillir à la tombe des. Et donner la collade à Netanyahou, lui dire « Israël a le droit de se défendre ». D'accord, Israël a le droit de se défendre, mais qu'en est-il des Palestiniens ? Ils n'ont pas le droit de se défendre au bout de 76 ans. On sait, vous savez, je suis désolé de constater que, comme vous, je sais que vous autres ici, on partage le même point de vue. Ce que représente le pouvoir actuel en présence en France, ne représente malheureusement pas, ne se situe pas dans le prolongement du leadership historique, enfin le général de Gaulle, je ne vois pas. Et donc, ça ne m'étonne pas, qu'ils se soient livrés à ce genre de truc, hein, qu'ils aient exécuté un ordre américain. Sinon, qu'est-ce qu'ils auraient amené en Ukraine ? En Ukraine ! Est-ce qu'on était obligé de lancer une guerre contre la Russie ? Et on imagine pouvoir gagner, enfin quoi, intimider Poutine, qui lui les voit implanter la menace à l'intérieur de chez lui. Comment on aurait pu croire que on a cherché la guerre ? Et les Américains, ont chargé les Européens, malheureusement. Qui sont ceux qui ont fait les premiers à avoir fait les frais de cette guerre-là ? C'est les Européens. Ils le paient de leur crédit. Regardez ce qui se passe en Afrique. Hein ? La présence française en Afrique maintenant. Quoi ? Mais c'est incroyable quand même. Et puis pas seulement ça. L'histoire des sous-marins qui avaient été commandés par l'Australie, 25 millions de dollars, 25 milliards. 25 milliards. Alors, les États-Unis viennent et fauchent tout, allez, dégagez les Français. Et malheureusement, c'est ça. Moi, je le dis, moi, je me sens français, en quelque sorte. Vous savez, je n'ai pas demandé la nationalité française pour que personne ne pense, parce que j'ai eu le bonheur de me marier avec une Irlandaise, et donc je suis européen. J'aime la France, mais je n'ai pas voulu laisser croire les Français que je voulais les concurrencer pour leur pain. Mais je suis de culture française. J'ai fait ma scolarité chez les Français, au lycée français de Beyrouth, puis ensuite à l'école des lettres qui était rattachée à l'université de Lyon, puis j'ai fait mon doctorat à Paris. Non. Donc j'aime la France, hein. Je ne fais pas de la surenchère, j'aime la France. Mais je me sens vraiment scandalisé par cette politique qu'elle met. Et d'ailleurs, je ne vous cache pas que la première fois que j'ai reçu comme une douche d'eau glacée sur la tête, c'était en 89. C'était juste deux semaines avant de vous rencontrer la première fois. Ah, c'était Christine. Alors, j'ai été invité à participer à une conférence de l'Association internationale de sociologie des religions dont je fais partie. Et elle se tenait à Helsinki. Et là, je me vois, parce que qui m'a invité? Ce sont les collègues français. Alors, je me sens, et puis je sais que cette association avait été fondée par Gabriel Lebras, un Français, et d'autres de la Belgique française. Alors, je me suis porté là avec les couleurs de la francophonie. J'aurais pu, par exemple, m'exprimer en anglais. Non, il fallait... Et voilà que je vois, la question se pose. En séance plénière, à mon avis, ça, c'est très représentatif. En séance plénière, il se pose un problème de financement. En disant, bon, on devient de plus en plus nombreux à parler l'anglais, à être anglophone. Il y a de moins en moins de francophones. Mais évidemment, il y a une parité quasiment égale et on ne dispose pas des moyens de financer l'interprétation instantané. Alors, quelle solution apporter à cette affaire? Et voilà, le président de l'Association française de sociologie des religions dit, mais enfin écoutez, il faut se rendre à l'évidence, nous devons tous nous mettre à parler l'anglais. Et lui, il n'était pas foutu de prononcer un mot en anglais. Alors j'ai compris ce jour-là combien mon combat était perdu.
Oui, par rapport à la Syrie, parce qu'en réalité, quand on présente la guerre en Syrie, on parle toujours de guerre civile. En réalité, ce n'est pas du tout une guerre civile. C'est une, comme l'ont noté certains, c'est une mini-guerre mondiale, ne serait-ce que par toutes les parties qui sont imbriquées là-dedans et qui ont essayé d'attiser le feu. Mais en fait, là, je voulais élargir un petit peu la question, notamment aussi par rapport à ce qui se passe à Gaza. Parce que ce qui est quand même incroyable, c'est à quel point le droit international est totalement piétiné. Et les piétiner par les pays occidentaux qui sont ceux qui traditionnellement s'en réclament à corps et à cri et prennent ça comme point d'appui pour toute leur politique, pas toujours justifiée un petit peu partout dans le monde. Et donc, du coup, là, on est allé quand même tellement loin dans ce déni du droit international, dans un contexte où, à l'heure actuelle, on est... parce que cette question d'une guerre mondiale, aujourd'hui, on voit ce qui s'est passé en Syrie, mais on voit qu'il y a une incidence qui est beaucoup plus large dans un contexte où ça commence à brûler un petit peu de tous les côtés. Et donc, je me posais la question qui... Bon, c'est peut-être une question totalement, comment dire, absurde, encore que, mais on voit par exemple un Donald Trump à l'heure actuelle en train de dire, j'ai cru que c'était une blague hein, au départ, vu qu'il est quand même totalement habitué des provocations les plus extrêmes, mais on peut se poser la question quand il parle de son désir de dire que, par exemple, le Canada devrait être le 51e État des États-Unis, que finalement, le Groenland, est-ce que les Danois ont vraiment une base légale pour avoir le Danemark, ce qu'il a dit à propos du Panama. Alors bon, est-ce qu'on en est dans le domaine de la pure provocation? Ou est-ce que aujourd'hui le droit international semble être remplacé par le droit du plus fort, comme au Moyen Âge? Donc, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que on est en train de revenir au Moyen Âge. D'abord, c'est un polichinelle, lui.
Insulte pour le Moyen Âge.
Hein?
Oui.
Non, mais c'est un polichinelle. Mais c'est, enfin, écoute, tu vois un président de la République, même s'il en avait l'envie, comme ça, affiché, comme ça, ouvertement, non, voilà, je vais prendre le Canada, mettre la main sur le détroit de Panama, annexer le Groenland, etc. Tu te rends compte? Enfin, d'ailleurs, l'autre, son prédécesseur, là, le sénile, c'est incroyable. Ils sont en train de travailler. Ils ont passé 15 mois à nous raconter, par la voix de Blinken, qu'ils sont en train de travailler dur pour instaurer un cessez-le-feu entre Hamas et Israël. Imaginez, en 15 mois! Et pendant ce temps-là, le génocide se poursuit. Qu'est-ce que... Ça, c'est une conduite génocidaire. Ils sont en train de nous dire « Fini, c'est ça l'Empire. Nous sommes l'Empire du mal et vous devez le subir. Vous n'avez pas le choix. » Voilà. Moi, je veux le... Je désire le Canada, je vais le prendre. Je désire le Greenland, je vais le prendre. Et pourquoi faire le Greenland? Parce qu'il voit que les voies du transport maritime vont se... Donc, peu importe si la France a peur d'être noyée, de voir Paris noyé dans quelques années à cause de la fonte des glaces polaires, je dis non, non, monsieur, qu'est-ce que vous faites hein? Mais c'est incroyable. Non, ça te paraît burlesque. Mais en fait, ils sont en train d'instaurer un monde de non-légalité et de non-légitimité. C'est un monde où c'est la loi du plus fort qui le gouverne. La loi du plus fort. Je ne dis pas la loi de la jungle. Non, la jungle est plutôt, elle est beaucoup plus juste. Hein? Un lion, quand il a faim, il attaque une victime et une fois repu, c'est fini. Ah, on est satisfait. Là, ils ne sont jamais satisfaits.
Oui, juste un mot. Lyndon LaRouche, en août 1971, juste après le 15 août, quand on a débranché le dollar de l'or, il a dit, à partir de maintenant, l'oligarchie va établir dans le monde, pas seulement aux États-Unis, un régime fasciste de type nouveau, de manipulation mentale, principalement pour commencer, et après on aura tout le reste. Et je crois qu'on en est là.
Oui, parce que, écoute, on peut mettre en marche cette machine et imprimer autant de dollars qu'on veut et s'en servir pour vendre et acheter des armes et les envoyer pour tuer et massacrer les gens. C'est aussi simple que ça. C'est ça le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Alors, juste, j'avais une question, c'est que, parce que par rapport à Larouche, la grande opposition qu'il y a dans le monde, c'est une fin de l'humanité basée sur la stupidité, l'ignorance, sur laquelle on peut rajouter le rapport de force, on peut rajouter le mensonge, pour justement rajouter tout ce qui se passe ici en Europe. Le monsieur n'est plus là, mais c'est ce qui fait qu'on est, on a plus prise aujourd'hui, la population n'est pas d'accord avec ce qui se passe, mais elle a plus prise. Et on est massacré par un rapport de force constant entre toute une classe politique qui est ignorante et stupide, mais un rapport de force énorme. Ma question, c'est de savoir, est-ce que l'opposé de ça, qui est l'idée de puissance, qui est l'idée que, au-delà des a priori, au-delà des étiquettes, au-delà des propriétés, on peut développer des capacités à mieux comprendre le monde, à mieux le construire, etc. Il y a quand même plusieurs personnes qui ont été assassinées, que ce soit dans les Palestiniens, où c'était le général iranien qui avait été assassiné par Trump, discutait avec Soleimani, qui travaillait avec les Saoudiens. Les Chinois ont essayé de faire en sorte qu'il y ait discussion au sein même des forces palestiniennes. Ma question, c'est de savoir, est-ce que dans le monde arabe, il y a des personnes, des mouvements qui continuent à essayer de dépasser les clivages au profit de cette question d'une puissance moyenne-orientale. Et ma deuxième question, c'est la Chine. C'est que la question du Moyen-Orient, et l'Iran en particulier pour la Chine, c'est pas le... Enfin, eux, ils en sont au début de leur croissance. Donc, ils sont au début d'un besoin d'un Moyen-Orient en paix et d'un Moyen-Orient qui soit capable de leur fournir du pétrole.
Les Chinois, oui.
Il y a les Indiens qui arrivent, il y a l'Afrique qui arrive aussi. Donc, on a un avenir qui a besoin d'un Moyen-Orient en paix. Donc, comment vous voyez leur intervention dans tout ça? Voilà, c'est deux questions.
Écoutez, moi, je vois que tôt ou tard, sachant que pour l'instant, on voit bien que on assiste au dernier soubresaut de l'Empire. L'Empire américain, l'Occident global, comme on l'appelle, il est en train de faire une démonstration de force, mais qui est dépouillée de toute référence éthique et juridique. Et à mon avis, ça, c'est une affaire qui est à leur désavantage et non pas à leur avantage. C'est vrai que sur le champ, ils peuvent terroriser. Mais dans la même mesure, ils sont en train de perdre toute crédibilité. Et c'est l'opinion de tout un chacun à travers le monde, et à commencer par leur propre société qui va se retourner contre eux. Enfin, l'Américain qui va voir son président... chef de l'État en train de se comporter comme ça envers les pays voisins.
Ils l'ont élu pour la main.
Oui, mais il y a eu quand même, Harris a perdu des élections qu'il aurait pu emporter si les gens n'avaient pas été tellement scandalisés par la chute éthique, n'est-ce pas, dans le comportement vis-à-vis du génocide à Gaza. Et ça, c'est démontré par les chiffres, la baisse du nombre de participants. Voilà, il y a eu l'abstentionnisme dans les États, comment on les appelle, Ouais. Voilà, donc on ne peut expliquer cette histoire que par une prise d'opposition vis-à-vis de la politique américaine, que les démocrates ont pratiquée envers Israël et Gaza. Donc, c'est vrai, je n'ignore pas, évidemment, ils ont voté. Bon, celui-là a gagné par défaut cette fois-ci. Il a gagné par défaut. Parce que les gens voulaient pénaliser le sénile qui est au pouvoir avec son appareil. Je pense que, écoute, il y a tellement les élites lettrées, les jeunes qui se spécialisent, qui vont devenir d'ici 5 ans, 10 ans, eux-mêmes la classe dirigeante dans les différents pays occidentaux. Est-ce que vous, moi, je ne sais pas, moi, je vois autour de moi des jeunes s'exprimer, ils ne sont pas indifférents à ce qu'ils voient. Et j'ai du mal à imaginer comment cette chute morale, cette chute éthique va pouvoir se perpétuer indéfiniment. Non, je crois qu'on a toutes les raisons d'espérer. On a vu les jeunes se mobiliser aux États-Unis, on les a vus en France, on les a vus en Angleterre, on a vu la communauté juive new-yorkaise se scinder en deux, mais enfin vraiment... faire la démonstration d'une crise morale et d'un éveil moral contre la politique sioniste en Israël, à mon avis, ça, on ne peut pas le négliger. Ce sont des... Et à mon avis, ce phénomène-là représente en lui-même une invitation adressée à nous tous pour essayer de fédérer tous ces gens-là, d'en faire la force de frappe pour l'avenir. Parce que les gens comme ceux dont on parlait tout à l'heure, hein, les sous-fifres de l'administration américaine, bon, ceux-là, ils appartiennent déjà à une génération révolue. Ce sont les jeunes, c'est les dirigeants de demain qu'il faut essayer d'aider à émerger.
La Chine.
La Chine, écoutez, vous êtes certainement au courant de cette histoire du corridor indien qui est mise en route, enfin qui, 3 semaines avant le 7 octobre, lors du sommet des G7 qui s'est tenu en Inde, et il a été annoncé la mise en route de ce couloir indien. Ce couloir indien qui consiste à créer un projet concurrent à celui de la Chine, hein, la ceinture et la route. La ceinture et la route au Moyen-Orient est destinée toujours à emprunter les voies existante déjà, la mer Rouge. Le corridor indien, il est conçu pour faire le pont entre l'Extrême-Orient, dont l'Inde, et l'Europe, jusqu'à la Grande-Bretagne, en passant par Israël. Et par quelle voie ? Par une voie qui va faire disparaître Gaza au bénéfice du canal de Ben Gurion. C'est d'ailleurs au bénéfice de ce canal de Ben Gurion et du port de Haïfa qu'ils ont fait exploser le port de Beyrouth il y a 4 ans. Le port de Beyrouth. Ils ont voulu faire disparaître Beyrouth de la scène régionale, parce que Beyrouth, c'était une porte d'entrée capitale, n'est-ce pas, des marchandises et dans la région. Bon, donc, Israël conçoit, et avec ses protecteurs américains, il conçoit un projet rival, qui va supplanter le canal de Suez. Et ce canal de Suez, c'est contre qui il porte atteinte en premier? C'est contre l'Égypte. C'est contre l'Égypte et tout cet environnement qui tourne autour de... Parce que quand on... Avec le canal Ben Gurion, le canal de Suez devient une marginalité et tous les revenus que recueillait l'Égypte par là, tomberont à l'eau et c'est Israël qui va empocher les dividendes. À mon avis, les Chinois n'ont pas le choix que de se défendre. Bon, ils ont beau voulu faire jusqu'ici, adopter une politique gagnant-gagnant, hein, donnant-donnant, hein, win-win, tout le monde gagne. Et donc, ils ont évité de privilégier les solutions militaires. Mais tôt ou tard, ils vont être obligés de faire face, hein, parce que les Américains ne leur donnent aucune, ne laissent pas un moment tranquille. Ils sont en train de frapper à leur porte et ils veulent... donc, c'est l'histoire de Taïwan et tout ça. Bon, et là aussi, en Égypte, ils ont des ressources, ils ont la possibilité... Les Chinois ont de bonnes raisons de réagir et d'empêcher ce projet rival de voir le jour. Et à mon avis, si j'avais eu le temps, évidemment, ma fille m'aurait bouffé la tête. si j'avais eu le temps, j'aurais abordé cet aspect de la question, parce que je pense que les menaces que cette politique occidentale israélienne et enfin, la politique de l'Empire, appelons-la, fait peser sur et la région et l'avenir du monde, elle ne va pas être laissée sans réaction de la part des partis lésés. Il est en voie de construction ce cadre rival qui est celui des BRICS. Assemblée, je ne sais pas, de Shanghai.
Coopération
de Shanghai. Ils sont en train de mettre en place des cadres de coopération, un fonds monétaire rival au Fonds monétaire international. Je ne suis pas, mais je dis qu'elles ont les institutions et les instruments qui sont en train d'essayer de mettre en place, et à mon avis, ils n'auront de choix que de se battre parce qu'il y va de leur survie et de leur capacité à se développer. Donc oui, les Chinois vont inévitablement rebondir, eux et les Russes, l'Iran fait partie de ce club-là, l'Afrique du Sud en fait partie, le Brésil, l'Amérique latine dans son ensemble en fait partie. Il y a l'Arabie saoudite même, enfin, les pays de la région, la plupart des pays de la région. Je ne parle pas des Émirats arabes unis qui sont des valets de chambre d'Israël, mais je parle des autres, des grands pays de la région. Ils ont tous intérêt, y compris l'Égypte, ils ont tous intérêt à rallier ce club-là. Bon, on a des raisons d'espérer. Hein, on a des raisons d'espérer, et je crois que ça, nous autres, depuis chez nous, eh ben nous, c'est notre espoir alternatif, je dirais, parce qu'avec les Américains, il n'y a rien à espérer. Avec l'Empire, il n'y a rien à espérer. Moi, je suis âgé de trois quarts de siècle, je n'ai pas vu un jour où les Américains nous ont foutu la paix. Et je ne parle pas seulement de nous au Liban, mais de toute la région. Et je pense que dans le monde entier, ils ne font que laisser leurs déchets, comme vous le savez.
Moi, sur ça, j'ai un commentaire à faire. Les Chinois viennent de tenir un colloque sur Sun Tzu à Pékin. Ce qu'ils disent, c'est que la meilleure des guerres, c'est celle qu'on gagne sans l'avoir à la combattre, c'est-à-dire en présentant des moyens d'intimidation suffisants pour arrêter l'adversaire, y compris militaires d'ailleurs, en s'armant dans la région. Ils sont un troisième porte-avions maintenant, les Chinois. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, l'autre, c'est le danger, et eux le voient, qui est dans les circonstances actuelles, et ils espèrent, et ils font tout pour qu'elles évoluent, d'un affrontement bloc contre bloc qui amènerait une guerre mondiale. Eux, ils craignent ça, et ils veulent créer les conditions où le bloc adverse s'affaiblira par tous les moyens. Et ils sont prêts à suivre tous les moyens que toute leur histoire leur enseigne dans leurs conflits intérieurs et dans leurs relations extérieures. Ils sont prêts à les appliquer pour éviter que ce bloc contre bloc dégénère dans une guerre mondiale. Ça, c'est leur point de vue. Et les gens qui sont autour, c'est très intéressant, qui étaient autour déjà de Jiang Zemin, de Hu Jintao, qui sont maintenant autour de Xi Jinping, c'est des gens qui ont une connaissance, disons, très approfondie de tous les moments de l'histoire où il y a pu avoir une victoire de cette façon, y compris l'histoire de Henri IV en France, qu'ils connaissent très bien. Ils sont des experts qui travaillent sur cette question, sur les partis des politiques pendant la Renaissance en France, des conseillers très proches de Xi Jinping. Donc, il y a toute une réflexion qui est comment être fort sans à l'ère où l'ennemi a des dents nucléaires et comment réussir à empêcher qu'il entraîne avec lui dans sa chute tout le monde entier, avec la folie qu'il y a dans certains milieux américains. Des gens qui ont eu une expérience aux États-Unis, notamment Wilkerson, qui était le numéro 2 de Powell aux Nations Unies, qui a été épouvanté par ce qui s'est passé avec Powell, et qui maintenant dit l'état d'esprit des gens qui sont au pouvoir aux États-Unis, c'est celui dont Marc-Antoine montre, il cite cette citation dans le de Shakespeare. Et ce que dit Marc-Antoine, c'est carnage. Et qu'est-ce que c'est après une... Pas de quartier. Carnage, pas de quartier. Donc, lâchons les chiens de guerre, pas de quartier. Donc, c'est cet état d'esprit qu'ils ont. Et les Chinois le savent et ils disent affaiblissons d'abord les chiens de guerre.
Ouais. C'est très intéressant. Et j'ajouterais aussi que pendant que les Chinois s'emploient à pousser dans ce sens, il y a pas mal d'experts de l'intérieur américain et qui écrivent et qui nous annoncent des jours sombres aux États-Unis. L'unité même des États-Unis serait menacée. Il y a de bonnes raisons. Cet approfondissement des inégalités, pas seulement entre les masses, mais aussi entre les États fédérés, etc. Et puis cette incapacité qu'ils ont démontré à régler le problème de, notamment par exemple le problème des droits des Noirs. Les Noirs continuent à être assujettis à des traitements qu'on a vus, comment la police se permet d'agir envers certains. Bon, et puis cette jungle des armes individuelles dans les maisons, il y a de bonnes raisons, pour certains. Moi, je ne suis pas un expert, mais j'ai lu certaines choses. J'ai écouté certains experts, ils disent, Et quand je vois aussi cette bipolarisation à laquelle on a assisté dans la rue, soit autour de la question de Gaza et le génocide, à mon avis, c'est une porte d'espérance qui s'ouvre.
Une question d'Internet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire?
Si vous voulez conclure, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis moi, je voulais vous demander si vous avez une œuvre littéraire qui vous donne de l'espoir dans le monde arabe, une œuvre que l'on ne connaît pas en France et qui vous donne l'espoir sur la...
Oh là là, vous me posez une question maintenant. Si vous m'aviez posé la question quelques jours auparavant, je me serais préparé pour... vous savez, c'est ce que je ne souhaiterais pas, au terme de cette soirée, c'est que vous sortiez, vous quittiez ici en pensant que je suis, moi, au bord du désespoir. Non, j'étais en train de dénoncer ce plan destructeur, malfaiteur qui s'abat sur nos pays. Et si j'ai tenu à conclure en disant « mais moi, je continue à me battre », c'est exactement pour laisser entendre, parce que je ne voulais pas confondre mes deux rôles d'universitaire ayant la charge d'expliquer une situation et d'en rendre compte, et mon autre charge de patriote militant depuis un élu de Tempus qui a à penser quand même, hein, quand bien même, qui a à penser à l'avenir avec tous les gens de bonne volonté. Moi, je persiste à croire que tout n'est pas perdu. Nous avons de très grandes raisons d'espérer. Et c'est vrai qu'il nous arrive par moments de perdre une manche. Vous vous souvenez, quand on s'est rencontrés, eh ben c'était la phase du général Aoun encerclé au palais de Babda, etc. Bon, on a perdu la manche. Et quand Karel m'a vu m'exprimer si fort sur la place publique, la place Charles de Gaulle, la place Victor Hugo, eh ben c'était justement en réaction au coup de force asséné par le régime de Hafez al-Assad à l'époque, le père de Bachar, contre le Liban, contre la souveraineté libanaise, le palais de Babda. Et voilà où nous en sommes, nous. On a fini par rentrer dans le pays, on a fini par bouter les Syriens dehors, et nous avons repris le contrôle de notre destinée. Bon, de nouveau, nous sommes menacés. Mais ce n'est pas grave. Et la résistance vient de déceler beaucoup de pertes importantes depuis l'affaire des pagers, qui était quelque chose. Et jusqu'au martyr du Sayyid Hassan Nassar. C'est pas grave. Nos mujahidines, les mujahidines de Hezbollah, ont su comment remonter la pente et interdire à toute cette machine de destruction réunie par qui est à la pointe du progrès dans la destruction par les puissances occidentales n'ont pas réussi. Le Hezbollah qui a été meurtri les a empêchés de mettre les pieds dans n'importe quel petit village de la frontière libanaise avec la Palestine occupée. Alors, quand on a des combattants comme ça, des militants comme ça, qui ont une telle foi en eux-mêmes, dans l'avenir, dans leurs droits et dans l'avenir de leur pays, on a toutes les raisons d'espérer et de persister dans le combat. Voilà.